Radio France Internationale, 8h à Paris, il est 10h à Moscou.
Nemo en peace.
Et à la une de votre journal, Simon Bourtembourg, la réunion à Riyad entre les chefs de la diplomatie russe et américaine.
Rencontre pour resserrer encore les liens entre les deux pays, jusqu'alors au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine. De l'Ukraine, il en sera question alors que Donald Trump s'impose sur le dossier depuis son retour à la Maison Blanche. Une mainmise pour le plaisir de Moscou et au détriment de Kiev, tenu loin des discussions de paix par Washington. Le dossier de ce journal sera consacré aux expulsions de migrants aux États-Unis. Notre correspondant David Thompson a accompagné une unité d'élite de la police anti-immigration à El Paso, l'un des points clés de passage en la frontière mexicaine. À la une également, statu quo au sud Liban, fin du délai fixé pour le retrait des emprises israéliennes de la zone. Pourtant, l'État hébreu annonce maintenir sa présence dans 5 points stratégiques au Liban. Dans cette édition, nous reviendrons également sur l'ouverture hier à Paris du procès des geôliers du groupe État islamique en Syrie, également sur la visite de la ministre française de la Culture dans le Sahara occidental, et puis la fin du suspense bientôt. Dans 45 minutes maintenant, vous connaîtrez le nom du prix découverte RFI 2025.
Nouveau rebondissement, Simon, dans les relations entre la Russie et les États-Unis.
Après le coup de fil de 90 minutes entre Donald Trump et Vladimir Poutine la semaine dernière, cette fois, ce sont des délégations menées par les chefs respectifs de la diplomatie qui sont ensemble depuis hier soir en Arabie Saoudite. Anissa El Jabri, vous êtes en direct de Moscou. Anissa, ces discussions à venir sans l'Europe, c'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine.
Oui, ce qui est une première aussi, ce sont des délégations russes et américaines côte à côte, à en croire la télévision russe, qui ont travaillé ensemble toute la nuit pour régler les derniers détails. Ces discussions, elles doivent s'ouvrir dans les minutes qui viennent, et les médias légitimistes russes savourent ici le monde entier à les yeux braqués sur les échanges à Riyad, répète la télévision d'État. Cette rencontre, la toute première à ce niveau depuis 2 janvier 2022, c'est évidemment pour le pouvoir une légitimation, et il en attend d'autres, notamment une rencontre au sommet Trump-Poutine. Ce rendez-vous à Riyad doit aussi la préparer. Elle est annoncée, elle aussi, très prochainement.
Et doit-on attendre déjà de premiers échanges, des avancées concrètes sur l'Ukraine, donc sans Kiev et sans les Européens ?
Eh bien, il n'y a aucune date butoir fixée officiellement, mais clairement, il s'agit d'un rendez-vous avec beaucoup d'options ouvertes. Par exemple, son nom n'avait pas été cité hier par le Kremlin quand il a évoqué la composition de la délégation. Mais depuis quelques heures, un personnage important parle aux médias russes comme américains. Il s'agit de Kirill Dmitriev. Alors, c'est officiellement le chef du Fonds souverain russe. C'est déjà beaucoup, mais il est plus que ça. C'est un homme réputé pour avoir la confiance de Vladimir Poutine. Il aurait joué déjà un rôle la semaine dernière dans l'échange de prisonniers. Alors lui aussi ne tarit pas d'éloges sur l'équipe Trump, et depuis son élection, le président américain est en effet régulièrement, abondamment complimenté par tous les cercles du pouvoir russe. Kirill Dmitriev, lui, semble en tout cas avoir un objectif précis, avancer sur le rétablissement des liens économiques Russie-États-Unis, autrement dit, l'allègement des sanctions.
La précision signée Anissa El Jabri depuis Moscou. Merci à vous.
Après le Panama et le Guatemala, le Costa Rica se plie aux demandes de Donald Trump pour faciliter les expulsions de migrants aux États-Unis.
Un nouveau point de passage où arrivera un contingent de migrants, et ce dès demain. Un atout supplémentaire aussi pour le président américain, qui a promis d'expulser massivement jusqu'à 15 millions de sans-papiers et de reprendre le contrôle de la frontière avec le Mexique. Près d'un mois après sa reprise du pouvoir le 20 janvier dernier, Donald Trump a signé plusieurs dizaines de décrets anti-immigration, et son administration assure que les passages illégaux de la frontière ont chuté de plus de 90%. Pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec David Thompson. Bonjour.
Bonjour.
Vous revenez justement d'El Paso, l'un des points de passage les plus sensibles de la frontière mexicaine. Dans cette ville du Texas, vous avez accompagné une unité d'élite de la police anti-immigration qui est galvanisée par la victoire de Donald Trump.
Oui, le long de la frontière à El Paso, juste en face de Ciudad Juárez, cette ville considérée comme l'une des plus dangereuses du Mexique, nous avons accompagné une patrouille du Border Star, l'unité d'élite et militarisée de la police des frontières américaines. En théorie, ces agents sont tenus à un strict devoir de réserve. Pourtant, ils ne s'en cachent pas, ils sont plutôt ravis de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.
C'est ce qu'on attendait tous et on apprécie beaucoup ce changement. Ça va beaucoup mieux maintenant, c'est sûr. Pour stopper une hémorragie, il faut la boucher. Ça n'a pas été le cas pendant 4 ans et maintenant elle est bouchée.
Galvanisé, ce policier d'élite l'est assurément. Nous avons assisté à deux de ces arrestations de migrants extrêmement musclés. En prenant en chasse les clandestins, ce policier n'hésite pas à crier « C'est comme cela que nous reprenons le contrôle de notre pays ». Une phrase directement empruntée à Donald Trump. Donald Trump, dont le discours radical anti-migrant aurait à lui seul eu un effet dissuasif sur les candidats à l'immigration, selon Orlando Mariao, un autre policier des CBP, la police des frontières d'El Paso.
C'est l'effet du message et des conséquences que nous appliquons actuellement à tous ceux qui entrent illégalement dans notre pays. Les étrangers savent qu'ils vont être expulsés. Alors ils y réfléchissent à deux fois avant de gaspiller leurs ressources en essayant de venir ici illégalement. Ils préfèrent éviter de venir parce qu'ils savent que peu importe le temps qu'il leur a fallu pour venir ici illégalement depuis leur pays d'origine, nous, on va les expulser en à peine quelques heures.
Et pourtant, David, la Maison-Blanche s'impatiente. Les chiffres des expulsions de migrants ne seraient pas assez élevés à son goût.
Oui, celui que Donald Trump a nommé tsar des frontières ne cache pas son agacement devant le rythme trop lent, selon lui, des expulsions. Même si les arrestations ont triplé, dit-il, je ne suis pas satisfait, disait Tom Homan il y a quelques jours devant des journalistes à la Maison Blanche. En janvier, ICE, la fameuse police de l'immigration, revendiquait entre 800 et 1000 arrestations de sans-papiers par jour. Près de 6000 expulsions au total, dont une centaine envoyées sur la base américaine de Guantanamo, bien loin des 15 millions annoncés par Donald Trump durant sa campagne. Tom Homan alors accuse les villes sanctuaires de l'empêcher de faire son travail. Il menace de poursuivre les maires de ces bastions démocrates pro-immigration. Il demande aussi à la ministre de la Justice de poursuivre une élue du Congrès, l'égérie de la gauche, Alexandria Ocasio-Cortez, pour avoir donné des conseils juridiques à ses administrés pour échapper aux rafles d'ICE, qui devraient bientôt passer à la vitesse supérieure en traquant les migrants jusque sur leur lieu de travail, dans leurs églises et même dans les écoles de leurs enfants.
David Thompson, correspondant de RFI aux États-Unis. Merci à vous. Le plan américain de transformation de la bande de Gaza sera respecté. Engagement hier du ministre israélien de la Défense qui a annoncé la création d'une agence spéciale pour le départ volontaire des habitants de Gaza. Début février, Donald Trump lançait l'idée d'une prise de contrôle de l'enclave palestinienne par les États-Unis pour la reconstruire et en faire, je cite, la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Un plan rejeté par le monde arabe et de nombreux dirigeants européens.
Les forces israéliennes toujours présentes ce matin dans le sud du Liban.
Le délai fixé pour le retrait des emprises israéliennes de la zone a pourtant expiré ce matin. Mais hier soir, à quelques heures de l'échéance déjà repoussée une fois, l'armée israélienne a annoncé maintenir sa présence dans 5 points stratégiques au Liban. Pas du goût des autorités libanaises qui réclament un retrait total et ce en vertu de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Un accord qui a en revanche permis en janvier dernier le départ des forces israéliennes du village côtier de Nakoura. Les stigmates de la guerre sont partout. Sophie Guignon a pu rencontrer des habitants qui ont retrouvé leur maison détruite à coups de bulldozer.
À Nakoura, les 3000 habitants reviennent abasourdis par l'ampleur des destructions causées par la guerre et l'invasion israélienne. Les maisons sont en ruine, les lieux de culte saccagés, le cimetière profané. Dans la mairie, elle aussi bombardée et brûlée, le maire Abbas Awada recense encore les dégâts.
Avant la trêve, le village était détruit à seulement 35%. C'est durant la trêve qu'il a été détruit à 90%. Les Israéliens ont ravagé le village avec des tractopelles. Les puits d'eau, l'école, le centre de santé, la centrale électrique ont été démolis. Ils ont fait ça pour empêcher notre population de revenir ici.
Adnan, 72 ans, a passé 9 mois entre octobre 2023 et juin 2024 sous les bombes et les drones. Agriculteur, il a finalement dû se résigner à quitter ses terres pour rester en vie. Sur son champ, ses arbres ont été arrachés, au sol, des traces de chars israéliens.
Je cultivais des avocats, des feuilles de vigne, des citrons et des bananes. Nos cultures et le fruit de notre fatigue n'existent plus. Qui va nous les rendre ? À part Dieu, qui ?
Alors que le cessez-le-feu est encore fragile et le pays ruiné, les aides se font attendre. La reconstruction, qui se chiffre à au moins 7 milliards d'euros, prendra des années. Sophie Guignon, de retour de Nakoura, RFI.
RFI 9h10 à Bukavu, la ville de l'Est congolais, reprise dimanche dernier par le M23. La peur règne encore dans la capitale provinciale du Sud Kivu, mais la situation était relativement calme hier. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de réel combat le week-end dernier, comme le mois dernier. C'était cette fois lors de la prise de Goma par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.
Et puis Simon, la ministre française de la Culture, était hier dans le Sahara occidental.
Rachida Dati a qualifié d'historique sa visite dans ce territoire disputé, administré par le Maroc. Un voyage sous forme de pas en avant de Paris pour des relations diplomatiques apaisées entre la France et le Maroc. Mathias Reynal.
Je suis coupable d'avoir intégré un groupe terroriste, d'avoir côtoyé des personnes qui ont commis des crimes, reconnaît le français Abdelmalek Tanem, parti en Syrie dès 2012. Mais je suis innocent du fait d'être un geôlier, je n'ai tué personne, pas fait d'attentat, jamais menacé la France, je ne voulais même pas revenir sur le sol européen, ajoute-t-il.
Erreur d'aiguillage ce matin sur RFI, vous entendiez Laura Martel. Écoutez cette fois Mathias Reynal au sujet de la visite de Rachida Dati dans le Sahara occidental.
L'image a fait le tour des médias marocains. La ministre française de la Culture, Rachida Dati, en tenue traditionnelle sahraoui dans une rue de Tarfaya. Elle s'est aussi rendue dans la ville de Laayoune où elle a participé au lancement d'un centre culturel, une antenne de l'Alliance française, avant de rejoindre Darla, sa dernière étape. La ministre a qualifié d'historique sa visite au Sahara occidental, une visite qui démontre selon elle que le présent et l'avenir de cette région s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, des mots empruntés au président français qui a proclamé l'été dernier le changement de position de son pays dans le dossier du Sahara, apportant un soutien appuyé au plan d'autonomie proposé par Rabat. Selon un communiqué du ministère de la Culture marocain, cette visite revêt, je cite, une dimension politique après la reconnaissance par la France de la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Ce voyage très symbolique intervient après la visite d'État au Maroc d'Emmanuel Macron. C'était au mois d'octobre. Le président français avait alors promis à Rabat l'engagement diplomatique de Paris afin de soutenir la solution marocaine sur le Sahara occidental à l'ONU et à l'Union européenne. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Medine Mouche nie toute implication dans le procès des otages de Daesh en Syrie.
Le djihadiste français a pris la parole après seulement quelques minutes de l'audience qui se tient en France devant la cour d'assises spéciale de Paris. Déjà condamné en 2019 à la perpétuité en Belgique dans le cadre cette fois du procès de l'attentat du musée juif de Bruxelles, Medine Mouche comparaît aux côtés de quatre autres personnes accusées d'être impliquées dans la séquestration en Syrie d'otages occidentaux entre 2013 et 2014. Cette fois, compte rendu d'audience signé Laura Martel.
Je suis coupable d'avoir intégré un groupe terroriste, d'avoir côtoyé des personnes qui ont commis des crimes, reconnaît le français Abdelmalek Tanem, parti en Syrie dès 2012. Mais je suis innocent du fait d'être un geôlier, je n'ai tué personne, pas fait d'attentat, jamais menacé la France, je ne voulais même pas revenir sur le sol européen, ajoute-t-il. Je suis innocent et je ferai tout pour le prouver, assure de son côté le Syrien Qaïs al-Abdallah, à qui il est reproché d'avoir facilité un enlèvement. Un peu plus tôt, Medine Mouche avait lui préféré se poser en combattant. Je n'ai jamais été le geôlier de quelque otage que ce soit, j'ai toujours été un soldat sur la ligne de front face aux forces de Bachar el-Assad. Et l'accusé de désigner les ex-otages qui lui font face, littéralement dans cette salle où le banc des partis civils est à l'opposé du box vitré séparé de quelques mètres. Je n'ai jamais rencontré ces personnes en Syrie. La première fois que j'ai vu Nicolas Hénin, c'était aux assises de Bruxelles, dit-il. Les journalistes français Nicolas Hénin et Didier François ont effectivement témoigné à son procès en Belgique. Ils ont donc déjà été confrontés à celui qu'ils ont reconnu comme l'un de leurs tortionnaires. Mais pour les familles d'otages, comme celle de l'humanitaire britannique assassiné David Hines, dont la tension était palpable, c'était une première, la première fois qu'elle se retrouvait face au visage de ceux qui incarnent pour elle les supplices subis par leurs proches au nom de l'idéologie mortifère du groupe État islamique.
Précision signée Laura Martel. Toujours en France, à la fin du long marathon budgétaire, le Parlement a définitivement adopté le budget de la Sécurité sociale 2025, une étape importante franchie pour le gouvernement Bayrou à l'issue d'un vote hier sans suspense au Sénat. Un mot de l'état de santé du pape, une nouvelle fois source de préoccupation. Si dans un dernier communiqué publié hier, le Vatican assure que l'état de François est stable, le pontife argentin âgé de 88 ans est hospitalisé depuis vendredi dernier et pour plusieurs jours peut-être encore, même si aucune date de sortie n'est avancée. Les dernières analyses faisaient état d'un cas complexe d'infection des voies respiratoires. Et puis, je vous le dis, disait en titre, la fin du suspense. Nemo, les jeux sont faits. Ils étaient 10 finalistes que on vous a présentés à tour de rôle ces dernières semaines. Eh bien, dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, vous connaîtrez le nom du prix découverte RFI 2025. On vous retrouve donc, Nemo, à 7h45 TU pour dévoiler le nom du grand gagnant.
Le rendez-vous est pris. Merci, Simon Bourtembourg. 8h15 ici à Paris, l'heure de la revue de presse internationale. On vous retrouve, Frédéric Couteau, et à la une, le moment de vérité pour l'Europe.
L'avenir de l'Europe se joue en ce moment, s'exclame Libération à Paris, samedi dernier à la conférence sur la sécurité de Munich, hier lundi au mini-sommet européen de Paris, ce mardi à Riyad, lors de la première rencontre de haut niveau depuis 3 ans entre responsables américains et russes. Et si, prévient Libération, à la fin de cette semaine, le rapport de force avec les États-Unis et la Russie reste défavorable au vieux continent, eh bien, il faut se préparer à une période d'instabilité et de solitude extrêmement dangereuse, à minima pour les 4 ans à venir. En gros, l'Amérique ne peut plus être considérée comme une alliée. Malgré tout, Libération se veut optimiste. Même s'il est tard, il est encore temps pour les Européens de réagir, de serrer les rangs et de bâtir enfin une défense européenne. Le Britannique Keir Starmer semble prêt à regagner le giron de l'Europe. Emmanuel Macron a beaucoup de défauts, mais c'est un fervent Européen. Le futur chancelier allemand ne pourra pas être plus mou qu'Olaf Scholz. Espérons que l'extrême droite ne fasse pas une percée surprise dimanche en Allemagne, soupire le journal, et la Pologne de Donald Tusk est au taquet militairement et économiquement.
Reste que, pour l'instant, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Oui, c'est ce que souligne le Corriere della Sera à Rome. Le seul succès certain de la journée d'hier est que les 11 Européens ont réussi à se réunir rapidement, invités en urgence par le président Macron pour répondre aux diktats américains, mais la réunion informelle de Paris semble avoir cristallisé plutôt qu'aplani les différences, notamment sur l'envoi de troupes en Ukraine. La France et le Royaume-Uni seraient prêts à envoyer une force de 25 à 30 000 hommes, croit savoir le Corriere della Sera, mais de nombreux autres pays se montrent réticents, l'Espagne, la Pologne et surtout l'Italie et l'Allemagne. Une solution inefficace, selon la première ministre Giorgia Meloni, qui souligne que les discussions à Paris ne doivent pas être interprétées comme un front anti-Trump. Olaf Scholz, lui, est également clair sur l'envoi de soldats européens pour maintenir la paix. Je pense, a-t-il dit, qu'il est complètement prématuré et inapproprié d'en parler maintenant. Nous ne sommes pas encore en paix, mais au milieu d'une guerre que la Russie mène toujours.
Et pendant ce temps, Frédéric, l'administration Trump, elle, appuie sur l'accélérateur.
C'est ce que constate notamment le soir à Bruxelles. Les émissaires américains, au premier rang desquels le secrétaire d'État Marco Rubio, devraient entamer aujourd'hui mardi en Arabie Saoudite des pourparlers inédits avec une délégation russe. Pour Washington, il ne s'agit encore que de poser les prémices d'une future négociation. Toutefois, côté américain, on parle d'un accord d'ici Pâques, relève le Süddeutsche Zeitung. 2 mois serait un délai extrêmement court pour résoudre une tâche aussi complexe, commente le quotidien allemand. Et cela nourrit à nouveau les craintes des Européens que l'administration Trump soit plus intéressée par une solution rapide que par un accord garantissant les besoins de sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. Autre crainte, souligne encore le Süddeutsche Zeitung, que Trump se laisse marcher sur les pieds par Poutine comme lors de sa première présidence.
Enfin, cette question, pourquoi cette réunion américano-russe se tient à Riyad ?
Réponse de la Croix à Paris, en creux, c'est aussi la montée en puissance stratégique de l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman que mettent toujours ses pourparlers. Le pays est le principal partenaire arabe des Américains. Il partage notamment de forts intérêts économiques autour du pétrole, dont ils sont avec la Russie les plus gros producteurs mondiaux. Mais la pierre angulaire de la relation américano-saoudienne est politique et porte un nom, relève la Croix, les accords d'Abraham. Impulsés par Donald Trump lors de son premier mandat, il normalise les relations entre Israël, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Maroc et le Soudan. Le président américain fait désormais de l'entente entre l'État hébreu et l'Arabie Saoudite une priorité. Toutefois, pointe le journal, toutefois, pas sans l'établissement d'un État palestinien viable et durable, répond Riyad, qui accueillera vendredi un sommet arabe pour justement discuter des alternatives au plan Trump pour Gaza.
La revue de presse internationale de Frédéric Couteau. Notre reportage international en Italie ce mardi, où les groupes mafieux sont toujours très actifs dans certaines régions. Pour preuve, ce coup de filet marquant, c'était la semaine dernière. 1200 policiers mobilisés pour l'arrestation de 143 membres de la Cosa Nostra. Et il n'y a pas que la police qui lutte contre les activités mafieuses. C'est le cas par exemple de l'association culturelle BS, qui a mis en place un programme scolaire pour tenter de détourner les enfants de la mafia et d'en éloigner les autres. Des centaines d'écoliers Février, étudient ainsi le livre de Roberto Di Bella, célèbre juge anti-mafia, qui parfois leur donne même des conférences pour mieux comprendre les ravages de la Cosa Nostra ou de la 'Ndrangheta. Pour RFI, Cécile Debarge a pu assister à l'une de ces séances.
Pendant des mois, ces collégiens étudient le livre « Libre de choisir » du juge pour enfants Roberto Di Bella. Son visage vient d'apparaître sur la mosaïque qui s'affiche à l'écran. Costume gris, cravate rouge, petite lunette fine, il est en direct de son bureau du tribunal pour enfants de Catane en Sicile.
Nous avons connu des meurtres terribles avec des voitures piégées, des scénarios dignes de terrain de guerre. À Reggio de Calabre, ce n'est pas rare d'entendre la nuit des explosions parce que des magasins menacés d'extorsion sont détruits par des bombes ou des cocktails Molotov.
Son témoignage est le moment fort du projet culturel Justice et Humanité Libre de Choisir. Il raconte comment 12 ans plus tôt, alors qu'il travaille encore à Reggio de Calabre, lui vient cette idée inédite. Proposer aux enfants de mafieux calabrais de quitter leur région pour recommencer leur vie ailleurs et ainsi échapper à leur destin criminel.
Dans les salles d'audience du tribunal pour mineurs de Reggio de Calabre, on en a vu défiler des jeunes comme vous. Et c'est d'ailleurs la même chose à Catane où je travaille désormais. Des jeunes intelligents qui avaient du potentiel, qui auraient pu avoir une vie bien différente, aspirer à une vie de famille, un travail honnête. Et au final, ils ont eu une triste fin. Soit ils ont fini en prison, soit ils ont été tués.
Le juge Di Bella égrène ses souvenirs. Un ado de 17 ans responsable de 6 meurtres, d'autres enrôlés pour surveiller des entrepreneurs pris en otage pendant plusieurs mois et cachés dans les montagnes de l'Aspromonte. Ces histoires sont souvent bien loin de la vie des collégiens du Piémont qui sont connectés ce jour-là. Elles sont malheureusement moins exotiques pour les élèves du groupe scolaire calabré que dirige la proviseure Isabella Marchio.
On plante chez nos jeunes, chez nos adolescents, des petites graines de l'égalité. Et c'est pour cela qu'on veut qu'ils soient toujours libres. Libres de choisir demain, quand ils seront des hommes, des femmes, des mamans, des papas, des citoyens, des citoyennes, pour contribuer positivement à construire une nouvelle société, une société du changement, y compris dans nos territoires difficiles. Comme ici, où, je dois le dire, malheureusement, nous avons eu en septembre une bien triste nouvelle, celle de 44 arrestations.
Ce jour-là, 44 personnes sont arrêtées entre Cerva et Petrona, deux toutes petites communes d'à peine 1000 et 2000 habitants dans la province de Catanzaro où se trouve le collège. Dans l'établissement, les élèves issus des rangs de familles mafieuses sont une minorité, mais tous sont exposés au climat pesant que fait peser la criminalité organisée sur ces territoires. Cécile Debarge, Reggio de Calabre, RFI.
Et vous retrouvez ce reportage de Cécile Debarge sur notre application RFI Pure Radio. En ligne pour l'appel correspondant, Joël Brunner pour RFI. En Grèce où depuis fin janvier, dans la zone maritime proche de l'île de Santorin, nous sommes là en mer Égée, des milliers de séismes sont répertoriés, des mouvements d'intensité faible à modérée certes, mais la majeure partie des 16 000 résidents et travailleurs saisonniers ont tout de même préféré quitter l'île par mesure de précaution. Les écoles, elles, sont fermées pour la troisième semaine consécutive. Bonjour Joël Brunner.
Bonjour.
Joël, il faut dire que ce n'est pas rare que la terre tremble autour de Santorin qui se trouve dans une zone sismique.
Non, et les Grecs sont en effet relativement habitués au séisme. Si la terre tremble régulièrement dans la région, c'est en grande partie parce que la Grèce est située à un point de rencontre entre deux plaques tectoniques, la plaque eurasienne et la plaque africaine. Alors, lorsque des frictions se produisent entre ces deux plaques, le résultat, eh bien, c'est que le sol bouge. Mais l'archipel des Cyclades, où se trouve Santorin, est aussi une zone volcanique et les mouvements souterrains de magma, donc de roches en fusion, peuvent eux aussi être à l'origine de tremblements de terre. En tout cas, la dernière fois que Santorin a connu une activité sismique intense, c'était entre 2011 et 2012 et cette période avait duré à l'époque un peu plus d'un an.
Est-ce que ça veut donc dire que le phénomène actuel, qui a donc démarré fin janvier, risque de se prolonger ?
Ici, en Grèce, les sismologues ont rapidement averti que le phénomène pouvait potentiellement s'étendre sur des semaines, voire sur des mois. Le fait est que personne ne le sait précisément. Ce que l'on sait, c'est que le nombre de ces secousses, dont beaucoup ne sont pas ressenties par les habitants, est inhabituel. Plusieurs scénarios sont envisagés. Soit l'activité sismique se résorbe d'elle-même, sans conséquences majeures, soit la série actuelle de faibles séismes pourrait mener à un tremblement de terre plus important, accompagné dans le pire des cas d'un tsunami. Les autorités grecques ici se veulent rassurantes, mais dans le fond, c'est toujours l'incertitude qui entoure l'évolution de cet épisode sismique.
Et on imagine bien, Joël, que si les séismes, même faibles, continuent à se multiplier dans les jours ou les semaines à venir, il y aura certainement des conséquences importantes sur le secteur du tourisme.
Tout à fait. Et le tourisme, je vous le rappelle, c'est l'un des piliers de l'économie grecque. Et les îles comme Santorin en sont extrêmement dépendantes. En ce moment, c'est l'hiver, c'est-à-dire la basse saison. Les conséquences sur le tourisme sont donc encore limitées. La haute saison, elle, commence plutôt à partir des mois d'avril ou de mai. Et c'est donc à partir de ce moment-là que l'on aura une idée plus précise de l'impact économique de cette série de séismes.
Merci Joël Brunner, correspondant de Radio France Internationale à Athènes, où il est 9h25. Un conseil des ministres de l'économie et des finances des pays de l'Union européenne aujourd'hui à Bruxelles. Et sera évoquée lors de cette réunion la question d'un éventuel assouplissement de la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui déchaîne véritablement les passions. Pourquoi fait-elle débat et quel est le risque de l'assouplir? C'est notre question d'environnement. Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, Pauline, la CSRD, je ne le répète pas en anglais, expliquez-nous ce que c'est concrètement.
Eh bien, c'est une directive européenne qui impose progressivement aux entreprises de fournir un rapport extra-financier sur leurs données sociales et environnementales. Cela peut être ses impacts sur la biodiversité, par exemple. La CSRD doit harmoniser les informations divulguées. Objectif, pouvoir les comparer, guider les investisseurs et aider les entreprises à piloter leur transition. Elle se concrétise cette année puisque les premiers rapports des plus grands groupes doivent être publiés à partir des données récoltées sur l'année 2024.
Sauf que nombre d'entreprises n'y vont pas de bon cœur.
Le MEDEF, ses homologues allemands de la BDI et italiens de la Confindustria réclament un assouplissement depuis novembre à la Commission européenne. Un vœu en voie d'être exaucé dans une loi dite Omnibus, dont la présentation est annoncée pour la semaine prochaine. La Commission souhaiterait modifier plusieurs directives votées lors du mandat précédent, dont celle sur le devoir de vigilance et la fameuse CSRD. Si le contenu de la loi est encore flou, Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, a annoncé un choc de simplification massif. Alors Olivier Guérin, chargé de plaidoyer à Reclaim Finance, craint cette remise en cause.
Elle présente un risque sur l'instabilité réglementaire, c'est-à-dire que les acteurs financiers qui veulent faire des choix ont besoin de savoir sur le long terme ce qui va se passer. Le second risque, c'est vraiment sur le contenu de la loi. On est parti apparemment pour supprimer de nombreux points de reporting, et donc les entreprises n'auront plus autant d'informations à fournir pour montrer qu'elles sont vraiment alignées avec l'accord de Paris.
Mais alors Pauline, que lui reprochent ces entreprises?
Eh bien certaines d'entre elles et certains dirigeants politiques l'accusent d'être trop complexe. Le directeur général de la BNP Paribas dénonce un délire bureaucratique et des patrons craignent que cela affecte la compétitivité. La porte-parole du gouvernement français évoque un enfer bureaucratique. Pour autant, toutes les entreprises, y compris des grands groupes, ne livrent pas bataille. Certaines se sont préparées. Et puis que le rapport de cette année ne soit pas parfait, ce n'est pas si grave, explique Éric Delannoy, président de Tenzing Conseil.
Comme on est sur un référentiel extrêmement détaillé, on n'a pas toutes les données pour une entreprise pour évaluer ses impacts. Ça va venir avec le temps. Donc il y a un enjeu de pouvoir qualifier et de construire la donnée qui permettra de nourrir les rapports. C'est pour ça que pour le moment, on est plutôt sur des entreprises qui vont commencer à identifier leurs grands impacts de manière à construire des premiers rapports de durabilité sur lesquels il n'y aura pas grande surprise, à vrai dire. Simplement, avec le temps, ça va s'affiner et ça va se complexifier. La CSRD n'a de sens que dans une logique de trajectoire, plutôt que de dire « oulala, encore un gros machin qui va être terrible ».
Cela dit, certaines données à fournir ne lui paraissent pas adéquates pour toutes les entreprises. Impact France, le mouvement patronal qui promeut un entrepreneuriat social et écologique, souhaite aussi certaines simplifications, mais sans toucher à l'ambition de la directive.
Merci Pauline Glaise du service environnement pour toutes ces réponses ce matin, 8h29 ici à Paris. Dans une minute, le retour de l'actualité africaine.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
Je vous retrouve tous les jours de la semaine pour un journal d'information internationale.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez lentement. Il n'y a pas de mots qui m'échappent et je peux saisir toutes les nouvelles sans faire aucun effort.
10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Le journal en français facile,
c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI.